Désolé de vous convoquer pour un conseil municipal assez court, mais bon, il ne fait pas très beau, donc de toute façon, vous ne seriez pas allé à la plage. On est bien ici. Comment ? Alors, monsieur Pierre-Léon Luneau, monsieur Tom Laborde, madame, monsieur Yann Guimard, madame Janine Le Golvan, monsieur Benjamin Leroux arrivera à 18h30, il travaille. Entre-temps, il a donné un pouvoir à monsieur Le Guénec. Madame Justine Vienne. Elle arrive. Merci, Charles. Monsieur Philippe Le Guénec, il est donc présent. Madame Morgane Petit a donné un pouvoir à madame Nadine Rouet. Madame Katia Sculot est présente. Madame Nadine Rouet est présente. Madame Nicole Le Gagneux est présente. Bonjour, Nicole. Monsieur Christophe Richard est présent. Madame Juliette Cordès a donné un pouvoir à madame Sylvie Robineau. Monsieur Jean-Luc Servet est présent. Monsieur Olivier Buquin a donné un pouvoir à monsieur Olivier Lepic. Monsieur Jean-Paul Cargosien a donné un pouvoir à madame Katia Sculot. Madame Christine Desjardins est présente. Monsieur Charles Bietri, et ça nous fait très plaisir. Christine Lamandé a donné un pouvoir à Marie-Pierre Gaston. Bah, on m'aurait menti. Ah, d'accord, ok. Bon. Elle est présente. Monsieur Marc Albert a donné un pouvoir à monsieur Michel Durand. Madame Catherine Isoard. Madame, monsieur Michel Durand, pardon. Et madame Michel Durand. Monsieur, madame Marie-Pierre Gasser est présente et sur le départ, visiblement. Monsieur Louis Coudeau a donné un pouvoir à monsieur Christophe Richard. Madame Sylvie Robineau est présente. Monsieur Pascal Lejean a donné un pouvoir, c'est rare, à madame Catherine Isoard, pour être noté. Et Olivier Lepic, le maire, est présent. Merci. On peut donc délibérer. Tom. Le Benjamin, secrétaire de séance, tu es d'accord. Merci beaucoup. Je commence ce conseil municipal par un rapide hommage. Cet après-midi, je me suis rendu à la cérémonie pour le décès de M. Jean-Yves Vivenne, qui a été conseiller municipal dans les années 89-90. C'est ça, Jean-Claude ? Je parle sous ton contrôle. C'est ce que Madeleine nous disait tout à l'heure. Non, mais voilà. Et donc, il est décédé... Ouais, 95. Hein. Tu étais conseiller à l'époque, toi, Michel ? Ouais, voilà. Bon, voilà. En dehors de la personnalité solaire de Jean-Yves, qui était à la fois un artiste, on l'a tous... Enfin, certains d'entre vous l'ont entendu chanter à la salle du Ménèque. Il a aussi dirigé pendant très très longtemps le centre de vacances du Crédit Lyonnais, puisque c'était lui qui gérait cette infrastructure. Et c'était un monsieur que j'aimais beaucoup à titre personnel. Voilà, Justine. Et donc, si vous en êtes d'accord, dans la mesure où il était conseiller municipal, je vous propose une petite minute de silence en sa mémoire. Je vous propose de vous lever. Alors, je vous propose de passer immédiatement à l'ordre du jour. Et donc, d'abord, l'approbation de la séance du 17 mars 2023. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce... Monsieur Guimard ?
Oui, s'il vous plaît. La commune de Carnac a décidé de ne pas augmenter les taux, les différents taux des taxes d'habitation et autres, ce qui est une bonne chose. Et en même temps, la semaine d'après, ACTA a doublé son taux sur l'habitation des résidences secondaires, ainsi que sur le foncier des propriétés bâties. Ma question est la suivante. Qu'avez-vous voté, vous, en tant que maire, d'ailleurs ?
Alors, je n'étais pas présent lors de cette session, mais j'ai donné mon pouvoir à M. Lejean, qui a voté pour cette décision.
D'accord.
On a eu des très longs débats en bureau sur le sujet.
Est-ce que ces taxes ACTA nous reviennent ?
Non, pas du tout.
Ou en partie ?
Non, non, non. En revanche, ce qu'on a demandé, c'est qu'elle soit fléchée, cette augmentation soit fléchée pour le logement des personnes à l'année.
D'accord. Mais en fait, c'est un peu étrange, parce qu'ACTA nous verse des subventions, que ce soit pour les travaux, pour plus tard le musée, plus tard l'UNESCO, etc. Donc, en fait, d'une manière ou d'une autre, on va les récupérer en quelque sorte.
Bah,
et sur la commune de Carnac.
Non, pas vraiment, parce que enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a une fiscalité qui est à plusieurs niveaux en France. Il y a la fiscalité communale, la fiscalité de l'intercommunalité, la fiscalité du département, la fiscalité de l'État. Et cette fiscalité, elle est redistributive. C'est-à-dire qu'un Carnacois qui paye 1 euro d'impôt à l'intercommunalité ne reçoit pas forcément 1 euro en retour. L'intercommunalité peut décider de favoriser des communes moins riches ou de faire des projets à un autre endroit. Et c'est tout l'objet, d'ailleurs, de cette fiscalité redistributive. Et donc on ne peut pas faire une arithmétique comme ça, je dirais, à l'euro près. Il est évident qu'il y a une partie de cette augmentation qui reviendra sur le territoire de la commune. Mais ce n'est pas à l'euro près.
Dommage de nous faire l'effort de ne pas augmenter ces taux-là. Et donc la commune récupère ce qu'elle a récupéré, tout simplement, et qu'en même temps, on vote, ou les maires votent, une telle augmentation sur ALTA.
Ça n'est pas moi qui décide de cette augmentation. Hein. L'objectif, c'est effectivement pour ACTA... alors, je vais pas défendre la logique qu'il y a derrière cette décision, mais la logique d'ACTA, d'abord, c'est qu'il y a un certain nombre de finances qui ont besoin d'être impliquées, notamment pour l'assainissement, hein, qui a un énorme travail sur l'intercommunalité, sur l'assainissement, un travail qui a commencé sur la côte, mais qui doit se pourvrir dans l'intérieur des terres. Il y a un certain nombre également de défis, dont celui du logement. Et dans la mesure, et encore une fois, je m'exprime au nom du président de l'intercommunalité, dans la mesure où la taxe d'habitation pour les résidences principales a été supprimée, l'intercommunalité a considéré que, effectivement, les résidences secondaires, puisque cette augmentation, elle porte très largement sur les résidences secondaires et pas sur les résidents principaux, était une manière de faire participer aux résidences secondaires au développement et au financement du territoire. Et ce que nous avons demandé, nous, représentants de Carnac, hein, Katia, moi et Pascal, c'est que cet argent ne soit pas fléché dans le budget général, mais soit utilisé pour, justement, puisque on finance ces nouvelles augmentations d'impôts par la taxation des résidences secondaires, que ça bénéficie véritablement à des problèmes de logement pour les gens qui vivent à l'année sur notre territoire. Mais ce ne sera pas forcément à Carnac, ça pourra être sur l'ensemble de l'intercommunalité. Madame Le Golvan ?
Justement, ils ont évalué à quel montant de millions
À quel montant de millions ? À combien de millions, vous voulez dire ?
Voilà. Millions quand même.
Oui, c'est quelques millions, puisque c'est entre 7 et 8 supplémentaires. Bon, c'était pas vraiment lié au PV, mais bon, c'est intéressant d'avoir cette discussion. Pour le reste, j'imagine que le PV est adopté, Monsieur Lino.
J'en profite pour vous poser une question sur les PV et les procès-verbaux rédigés à disposition des Carnacois, des Carnacoises sur le site web de la mairie. Celui du 17 mars n'est pas encore en ligne parce qu'il n'a pas été présenté au Conseil du 31 mars. Et on m'a répondu que celui du 31 mars serait disponible le 9 juin. Ce qui me paraît très très long comme délai pour mettre les procès-verbaux à disposition des Carnacois, des Carnacoises. Est-ce qu'il y a moyen de raccourcir ces délais en proposant l'approbation des procès-verbaux par mail, par exemple ?
Alors, je ne crois pas qu'on puisse le faire par mail. Hein, ils doivent être votés en conseil municipal, malheureusement, c'est la loi. Et puis, c'est une tâche qui est assez longue. Et c'est vrai que les services sont pas forcément... ce n'est pas forcément leur priorité. Mais moi, je ne reçois pas vraiment de demandes sur le sujet.
Parce que c'est long.
À partir du moment où ils sont... Oui, mais je ne reçois pas de demande sur le sujet. Enfin, je n'ai pas de Carnacois qui me disent c'est long, les PV sur le site. Mais bon, on va essayer vous avez raison, on va essayer de raccourcir les délais, mais je pense qu'entre chaque conseil, parfois, il n'y a pas suffisamment de temps pour que les équipes qui procèdent à ces PV soient faites. L'essentiel, c'est qu'ils soient disponibles, effectivement, dans un temps raisonnable, mais...
Et c'est combien, un temps raisonnable ?
C'est déjà entre chaque conseil, puisqu'on doit les voter en conseil.
D'accord.
Donc, si possible, la norme, ce serait que le PV du conseil précédent soit validé lors du conseil suivant. Voilà.
Oui. Merci.
Donc, le PV est donc adopté. On passe aux décisions du maire, qui sont de 37 à 58. Est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions ? Madame Le Golvan.
c'était réservé à Yann, mais je vais poser la question pour lui. Le logiciel de conception assistée par ordinateur, la question c'était, c'est pour quel service et
l'AutoCAD
quelle utilité, en fait.
L'AutoCAD, je pense que c'est pour l'urbanisme, si, non service ah oui, AutoCAD, pardon. AutoCAD, oui, c'est pour les services techniques. Alors, ce que fait l'AutoCAD, je serais bien incapable de vous le dire, Madame Le Golvan, mais je pense qu'il y a des gens...
Oui, oui.
Voilà, bah, Philippe, tu connais ça, toi ? Ah, ben j'avais pas tout faux. D'accord. Ensuite, monsieur Luneau ?
Je continue sur cette question-là, Janine, si t'es d'accord. Parce que AutoCAD, je vois précisément ce que c'est, parce que je sais m'en servir, j'ai appris à m'en servir durant mes études.
C'est formidable.
C'est un logiciel complexe. Il y a 5 jours de formation. On va former des néophytes en 5 jours à AutoCAD, non ? Parce que c'est un logiciel qui est très coûteux et qui est vraiment un usage professionnel. Si ça. Selon mes critères que qui sont les miens, mais ils sont nourris d'expérience de 10 ans d'AutoCAD. C'est vraiment un logiciel professionnel et ça serait une grosse dépense parce qu'il y en a pour plus de 14 000 euros pour une simple lecture des plans. Et, donc vous allez en faire quoi ?
Non, c'est pas que pour une simple lecture des plans, c'est pour en faire, et notamment les services techniques. Ont à réaliser régulièrement des déclarations préalables de travaux, par exemple, des plans extraits de bâtiments pour consulter des entreprises pour faire tel ou tel travaux. Donc après, si à chaque fois il faut consulter un maître d'œuvre et solliciter un maître d'œuvre extérieur pour réaliser des choses entre guillemets simples, même si AutoCAD est complexe à utiliser, les coûts seront très vite amortis. Pour ne pas avoir recours à des prestataires extérieurs. En tout cas, sur des choses simples qui pourraient être faites en interne si le matériel est à disposition.
D'ailleurs, c'est un renouvellement. Il y a déjà des agents qui connaissaient AutoCAD.
C'était ma question. Il y a des gens qui sont déjà formés, voire qui ont été recrutés sur, avec ce critère de compétence. Merci.
Pas d'autres questions ? Madame Le Golvan ?
Oui, la 2023-50. Donc là, on passe à 3 feux d'artifice.
Madame Lamandé est là. Madame Feu d'artifice.
Oui, en effet, nous allons passer à 3, étant donné le succès qu'on a eu avec le 3e feu d'artifice qui a été fait à Noël. Pour mémoire, je rappelle que le 3e feu d'artifice était le feu du 14 août qui n'avait pas été tiré, étant donné les consignes en matière... d'incendie et de protection, etc. Donc, on a fait le feu d'artifice au mois de décembre. Et devant le succès que l'on a eu, et comme on était justement en période de renouvellement du marché, on a réfléchi, on s'est dit, on va garder ce 3e feu d'artifice, qui sera normalement, logiquement, tiré encore du même endroit que l'année dernière, à savoir sur le tumulus.
Le budget des 2 feux, c'était quel montant ?
Bonne colle, parce que j'ai pas mes notes. On avait 10 000 et 8 000. 10 000 pour le 14 juillet et 8 000 pour le 14 août. Et là, on a 10, 8 et 8. Alors, avec un savant calcul avec la TVA, on arrive à un chiffre pas tout à fait rond.
Ma question est pourquoi autant de feux d'artifice, parce qu'on sait que vous voulez faire de Carnac le Saint-Tropez de Bretagne, en passant de 2 à 3 feux d'artifice, ça fait plus... Bon. Ça commence à faire Dubaï,
Non, alors je tiens à rappeler que le 3e feu d'artifice est un feu d'artifice qui est destiné aux enfants et qu'il est couplé avec la fête que l'on fait pour les enfants pour Noël. D'ailleurs, l'année dernière, ça a été fait attirer à 18h, juste après la fin de la fête pour les enfants. Et cette année, il sera prévu, normalement, si tout va bien, pour le 23 décembre. Pareil avec la fête des enfants.
Parce que, historiquement, c'était Carnac autour du 14 juillet et la Trinité-sur-Mer le 15 août. Et pourquoi pas garder cette bonne tradition qui est répartie
Nous la gardons. Si vous avez bien lu vos notes, nous la gardons.
C'est un contrat de 3 ans, si je ne dis pas de bêtises.
On a le 14 juillet, le 14 août et le mois de décembre qui s'appelle, on l'a nommé Noël, parce que dans la mesure où on a voulu garder la possibilité de pouvoir le déplacer au prorata de la fête que nous faisons pour les enfants et au prorata, bien sûr, de la météo. Nous avons...
Oui, mais là, la commande, d'après le document, c'est 2023, 2024, 2025.
Oui, alors c'est un marché qui se fait sur 3 ans.
D'accord.
Comme les marchés précédents, comme nous arrivions à la fin du marché, nous l'avons refait cette année pour
donc,
suivre
il y aura
la
3,
tradition.
3 feux par an en 2023, en 2024 et en 2025.
Non, 3 feux par... Oui, 3 feux par an.
D'accord.
Oui, c'est ça.
Oui, donc vous avez modifié la tradition.
Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces... Monsieur
Dans l'idée, on reste au tumulus ou pas?
Oui, c'est ce que je viens de te dire.
Excuse-moi.
Yann était aux toilettes pendant qu'on a fait cette précision.
J'étais concentré sur quelqu'un d'autre. Excuse-moi. Oui, nous gardons Noël pour le tumulus parce que c'est là où c'est le plus...
spectaculaire.
Voilà, je te remercie.
OK. Madame Le Golvan.
Le bordereau 57 et 58, 2023-57 et 2023-58. Donc là, on vote... 25 000 euros d'études pour la VAP. Quelque part, ma question était, c'est un durcissement, un allègement. Enfin, je ne sais pas, Monsieur Durand, est-ce qu'on peut avoir quelques précisions sur le fait de revoir la VAP qui a été votée il n'y a pas si longtemps que ça, finalement ?
Oui, d'une part, c'est une précision, certes. C'est surtout une correction également. Et puis, c'est une mission qui a été confiée à GECO, cabinet GECO, qui avait d'ailleurs fourni un devis à l'époque quand on avait prévu la modification de la VAP. Et quoi vous dire dessus, c'est qu'il y a toute la modification, établissement du dossier, en fait, tout le processus normal de la révision, de la modification, pardon.
Alors, il ne s'agit pas d'un allègement. Hein.
C'est, non,
en fait, on a essuyé un peu les plâtres. On a été la première commune à voter cette VAP. Et il y a quand même beaucoup d'erreurs matérielles dans la VAP, mais il ne s'agit pas d'alléger, au contraire. Hein. Il s'agit de la rendre plus pertinente. Mais vous serez amené, on sera amené à en discuter en conseil municipal.
D'accord. Vous avez déjà établi une liste au niveau de...
Ah bah des erreurs, oui, on a déjà des listes,
oui.
Une longue liste d'erreurs, des endroits, par exemple, je sais pas, une construction qui était un mauvais endroit sur la VAP ou une distance qui n'était pas respectée. Enfin, il y a pas mal de petites erreurs, en fait.
D'accord. La liste de toutes, vous l'avez présentée en commission urbanisme ?
Non, pas encore.
On la présentera quand on avancera dans les travaux.
Elle n'est pas figée, hein. Il y a encore des modifications en cours. Hein. Mais on y travaille dessus actuellement. Ouais.
Monsieur Luneau ?
Il y avait notamment le but de la modification de la VAP. Il y avait, si j'ai bonne mémoire, l'augmentation des hauteurs des constructions, le déboisement de certains secteurs. C'est plus que des petites erreurs. Annonçons la couleur honnête de l'étude.
Non. Pardon. Non, ce ne sont pas des déboisements de certains secteurs, c'est faux.
Déclassement de zones boisées, si.
Non, ce sont des secteurs qui ont été boisés et qui ne devraient pas l'être, qui ne l'étaient pas dans la réalité. Donc c'est complètement différent. Ne dites pas que c'était un déboisement, c'est pas vrai.
Ne faites pas des procès en intention, monsieur Luneau, s'il vous plaît.
Ça, c'est pas la peine.
Moi, je veux bien qu'on débatte, mais il faut quand même garder un petit peu de réserve et de ne pas balancer des accusations comme ça à la légère. Vous verrez bien quand on travaillera sur le dossier. D'accord ?
Mais ce ne sont pas des choses que je balance à légère ou hasardeux.
Si, parce que ça s'appelle un procès d'intention.
Bah, pas du tout.
Monsieur Luneau, quand on sera amené à travailler sur la VAP, vous serez amené à vous prononcer sur toutes les modifications.
Ouais.
Et à ce moment-là, vous pourrez faire ce genre de réflexion si c'est le cas, mais pas aujourd'hui. Voilà, c'est tout. C'est un procès d'intention.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de profiter du conseil municipal pour annoncer les vraies modifications qui sont envisagées, je trouve un peu fatigant quand même.
Monsieur Luneau, ce n'est pas le sujet du conseil municipal d'aujourd'hui. Ça va venir en conseil municipal et à ce moment-là, on en débattra. Mais ce n'est pas le sujet. Là, c'est une décision du maire en amont sur des études préalables à cette modification. Ce n'est pas le sujet. Merci. On passe au rapport numéro 4. Non, monsieur Luneau, encore ?
Quant aux décisions du maire, la 2023-37, la mise à disposition d'emplacements pour 9 résidences mobiles par le camping des Salines, c'est les emplacements et les mobil-homes ?
C'est la location de mobil-homes pour les surveillants des plages, pompiers. Voilà.
Les mobil-homes appartenant au camping des Salines ?
Oui, tout à fait.
Oui. Pour un montant de 13 880 euros, TTC pour une durée de ?
Pendant la saison. Oui, 3 mois.
Vous croyez ? Ouais. D'accord.
Oui, ça va pas pour loger les saisonniers pendant la saison. Donc
et
oui,
pour héberger combien de saisonniers ?
Il y a les policiers, il y a les renforts de la police municipale, il y a les pompiers qui surveillent les, je crois que c'est 18, non, qui sont logés à cet endroit-là. Ouais.
Il y a des gens du centre de loisirs. Il y a ceux du centre de loisirs, tous les saisonniers qui peuvent travailler autour de la commune, qui peuvent être hébergés.
Environ 18 pour environ 3 mois. D'accord. Merci.
Oui, monsieur Luneau.
La 2023-54, un nouveau radar pédagogique. À quel endroit se trouve-t-il ?
Oui, alors ça concerne d'abord deux radars. C'est le prix de deux, ça.
D'accord.
Hein ? Quel endroit ? Rien de précisé pour l'instant. Ça va venir, mais ouais. Donc c'est en réserve. Ça va être installé.
D'accord.
Oui. Je crois qu'il y en a qui sont prévus dans les villages, justement. Mais là, pour l'instant...
...sur la modification simplifiée du plan local d'urbanisme. Alors, il s'agit simplement de voter aujourd'hui pardon, les modalités de concertation préalable et non pas, les modifications en elles-mêmes.
Oui, alors, c'est des modalités de concertation... Donc, obligatoirement, on est obligé de faire une évaluation environnementale. Ça va être confié à DMO. DMO, c'est le cabinet d'études qui nous avait fait l'étude des zones humides lors de l'établissement du PLU et des révisions, d'ailleurs, qui va idéalement de nouveau intervenir. Et on fera, suite à ça, il y aura une procédure de modification simplifiée numéro 2 du PLU dans le cadre d'une concertation recourant aux moyens suivants. Organisation d'une réunion publique donc qui se fera le 11 mai à 18h30 à la salle du Ménèque. Donc ça concerne, je rappelle, les SDU. Ils sont au nombre de 10. On en a parlé en commission d'urbanisme, hein, Pierre Léon ? Oui ? Non ? D'accord. Ça donnait pas mal de discussions, d'ailleurs. Hein ? OK. Donc voilà. Et puis il y aura, ça sera visible sur le site internet de la commune, ainsi qu'un exemplaire papier consultable en mairie, aux heures et heures habituelles d'ouverture, du lundi 15 mai au mardi 30 mai. Alors, ce que tu m'avais dit en commission d'urbanisme, ça te semblait un peu court, c'est ça ?
Oui, en effet, j'ai fait remarquer en commission urbanisme assez vivement et fermement qu'il s'agit quand même de modifier la morphologie du territoire de Carnac de manière forte et définitive. Parce que ça consiste, si on est précis, et je trouve ça important que la presse le relate, qu'il y a cette réunion publique. Ça vous embête de parler de choses... Je vous vois commenter là, ce que je veux dire d'avance. Donc, les secteurs déjà urbanisés, ça consiste à construire dans les dents creuses, dans les hameaux. La loi Élan n'est pas contraignante, le SCOT ne l'est pas. Donc, c'est la commune qui choisit les hameaux où elle souhaite urbaniser. Et je trouve important de communiquer là-dessus en disant que c'est bien une volonté de la commune que de construire dans ces dents creuses et que la réunion publique annoncée, pas encore annoncée, justement, pour le 11 mai, c'est un peu court et la procédure simplifiée permet d'aller très très vite et de mettre des petites affiches jaunes sur le poteau électrique à l'entrée du hameau. Mais il est très très important, je trouve, que la commune, la municipalité, la majorité annonce clairement la couleur de ces constructions de dents creuses. Parce qu'il y a des communes qui l'ont fait, de consulter la population avec du temps. Et au final, les riverains, les habitants des hameaux préfèrent ne pas construire dans les dents creuses. Et garder la verdure.
Monsieur Luneau, vous dites beaucoup de bêtises, mais là, vous en dites une énorme.
Vous coupez la parole.
D'abord, non, c'est moi qui la donne et qui la retire, la parole.
Oui, qui l'a coupée tout à fait, exactement. Assez impolie.
Donc, je ne peux pas vous laisser dire des bêtises pareilles, parce que d'abord, ce sujet, il existe depuis une quinzaine d'années, qu'on a rencontré les habitants dans les villages qui nous ont fait part de leurs demandes, et que cette demande, parce qu'il y a beaucoup d'habitants et de Carnacois dans les villages qui souhaitent pouvoir lotir ces dents creuses pour leurs enfants. C'est une demande qui est récurrente, qui est pérenne et que nous font les Carnacois depuis déjà très très longtemps. CSDU, ils sont évidemment choisis par la municipalité, mais ils répondent à un certain nombre de critères qui sont fixés par la loi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décider comme ça de manière forfaitaire, bah, tiens, c'est un SDU, ça ne l'est pas. Justement, dans le cadre de la réunion publique, tout ça sera bien expliqué. Il s'agit d'extensions extrêmement modérées, hein, puisque dans le cadre de la loi Elan, les dispositions qui permettent de lotir ces dents creuses sont très encadrées par la loi. Hein. Il s'agira de quelques dizaines de terrains, quelques-uns par village à peine. Mais contrairement à ce que vous dites, les habitants des villages sont tout à fait favorables à cette disposition. Mais si vous y opposez, ça c'est votre droit. J'ai pas de problème avec ça.
Je ne m'y oppose pas. Je vous invite à être aussi doué en communication que sur d'autres sujets, sur l'intérêt de cette réunion publique et l'importance qu'elle a et le caractère assez
définitif.
Mais
on va communiquer. La loi nous oblige à communiquer et on respectera parfaitement la loi.
Et j'espère qu'on aura des cartes avec vraiment les zones qui vont être construites.
Mais tout à fait.
D'une précision et d'une lisibilité.
C'est l'objet de la réunion.
Alors c'est l'objet de la réunion, Pierre Léon, c'est que justement le cabinet Urbaction sera présent et présentera toutes les cartes de tous les SDU retenus.
Et la communication ne sera pas faite par un petit papillon sur le poteau électrique, mais dans chaque boîte aux lettres de toutes les personnes concernées dans ces villages. Nous avons reçu effectivement les enveloppes pour mettre effectivement dans chacun des villages, dans chaque boîte aux lettres des personnes concernées, donc ça ne sera pas aléatoire.
Et l'envoi se fait à quelle date ?
Ce soir.
Ce week-end.
Ça va se faire ce week-end.
D'accord. Et vous... Qu'est-ce qui vous garantit que tout le monde aura l'information ?
Puis allons les mettre dans les boîtes aux lettres, monsieur Luneau.
Oui, mais vous avez des gens qui ne sont pas là à temps plein, vous avez des résidences secondaires, vous avez...
Luneau, il y a un moment où il faut grandir. C'est un grand adolescent, c'est très bien, c'est même charmant à certains égards, mais on est là pour travailler, ok ? Quand on met une enveloppe dans une boîte aux lettres avec quelqu'un qui y habite, en général, il va chercher son courrier une fois par jour. Et en général, il trouve l'enveloppe et la plupart du temps, il lit même l'enveloppe. Bon, je crois que on a fait le tour du sujet. Madame Le Golvan.
Et vous comptez en parler dans la presse ?
Madame Le Golvan.
Mais
monsieur Luneau, ce n'est pas moi qui fais la presse. La presse va en parler. Elle en a déjà
c'est
parlé.
C'est pas vous qui écrivez la presse. Non, mais vous faites l'article que vous voulez quand vous avez besoin de communiquer. Est-ce que vous avez l'intention de communiquer
La presse va apprécier.
Je l'apprécie au quotidien. Est-ce que vous allez faire un article dans la presse pour annoncer cette réunion publique et l'importance qu'elle a ?
On va pas faire un article dans la presse. On va faire une conférence de presse avec la presse qui écrira ensuite un article si elle le souhaite.
Si elle le souhaite.
Madame Le Golvan.
Merci à la presse par avance.
Concernant le nombre de...
Vous pourriez respecter un petit peu nos correspondants qui sont là. Je trouve que c'est très méprisant ce que vous venez de dire, monsieur Luneau. Ils font leur métier. Moi, je n'écris pas les articles dans Ouest France ni dans le Télégramme. Ce sont eux. De temps en temps, on fait des conférences de presse qui ne donnent pas suite à un article dans la presse. C'est leur choix. C'est le choix éditorial du journal. Donc arrêtez de mépriser cette profession. Madame Le Golvan.
Madame Le Golvan,
concernant le nombre de SDU, il me semble que j'avais retenu le nombre de 14. J'étais en train de vouloir vérifier, mais moi j'avais retenu ça et qu'on en avait simplement choisi que 12. Tout à l'heure, vous parliez de 10. Alors, il y en a eu encore deux autres. Enfin, vous avez encore...
Oui, tout à fait. Il y en a eu deux autres qui ont été retirés. Alors, en fait, le critère de choix des SDU, c'est surtout par la densité, l'accessibilité, et puis surtout, une raison principale, c'est le raccordement, l'assainissement collectif. Ça, c'est obligatoire. Vous allez me dire peut-être qu'il y a certains SDU, je pense à un notamment, Kergroix, l'assainissement, il est réalisé, mais pour l'instant, non raccordé. Enfin, les maisons ne sont pas raccordées. Vous savez pourquoi ? C'est pour la liaison qui va arriver après les finitions de la station pour la liaison de Plémel sur Carnac.
Alors,
mais autrement, tous les autres pourront se raccorder directement.
D'accord. Vous avez donc quantifié le nombre dents creuses et combien de constructions maximum ? Alors, parce que ça représente combien vraiment de...
Alors, c'est très aléatoire parce qu'en fait, il y a des dents creuses. Certes, il y en a pas forcément dans tous les villages, il y a de bonnes possibilités d'agrandissement, d'extension d'habitation, jusqu'en limite de mitoyenneté, chose qu'il n'y avait pas avant. On était obligé de faire des extensions bâtimentaires, c'est-à-dire reliées au bâtiment principal. Là, on aura possibilité de détacher des bâtiments, suivant évidemment la surface de terrain, et puis suivant les règles de la VAP ou du PLU, parce que certaines SDU qui sont en AVAP et d'autres sont dans le PLU. Donc il y a des règles différentes.
Franchement, si vous êtes libre, Madame Le Gallon, il faut venir, parce que c'est un sujet compliqué, parce que c'est vrai que ces SDU, elles sont quand même encadrées par la loi. Donc au début, on a tenté d'en faire passer 14, mais on a vu que quand on a fait passer les critères que l'État a fixés dans la loi sur ces villages, il y en a qui ne passaient pas. Enfin, dire que le contrôle de légalité nous aurait refusé. Et donc on a choisi, avec... avec le cabinet, les SDU qui auraient été acceptés de toute façon. Les autres ne seraient pas passés sous les fourches codines de la loi à cause des problèmes d'assainissement, à cause d'une urbanisation pas assez dense. Et donc, en fait, voilà, on va pas se lancer dans quelque chose de trop ambitieux et de toute façon qui serait retoqué par le contrôle de légalité.
Vous demandez d'aller où, parce que
à la réunion du 11 mai.
Ah oui.
Non, parce que ce sera le technicien qui exposera, et le garçon est enfin plutôt brillant, et enfin il explique ça vraiment très très bien.
D'accord. Donc Monsieur Durand, vous n'avez pas un chiffre?
Non.
D'accord.
Dire non, j'ai pas de chiffre. Je sais qu'il y a à peu près tous les SDU auront des constructions nouvelles, ça c'est sûr. Ils ont toutes des dents creuses. Maintenant au niveau du nombre, non, non. Il peut y avoir des divisions également. Des grandes propriétés dans les SDU, c'est qu'ils pourront diviser. Donc là, si c'est en 2, 3, 4 parcelles, je ne sais pas. Impossible de savoir.
Alors justement, je suis ravie d'être invitée à la réunion publique du 11 mai, donc je pense que j'y serai.
Bien sûr.
Hein, c'est gentil. Par contre, justement, cette réunion, donc le jeudi 11 mai, aujourd'hui on est à la veille du 1er mai, je pensais d'ailleurs que, parce que vous aviez fait une étude, c'était par Urbaction, c'est ça?
Oui.
D'accord. Donc en décembre, il y a eu des questions, ça avait été débattu déjà, parce qu'il y avait un bordereau qui était passé sur le sujet. Comment se fait-il qu'on n'ait pas, nous, en priorité, au conseil municipal, le compte rendu de Urbaction?
Vous allez l'avoir une fois que la réunion publique sera passée, parce que nous, on n'a que des documents de travail pour l'instant. Également.
En fait, c'est l'ordre inverse. C'est d'abord la concertation publique et après, on revient au conseil municipal avec les résultats de l'étude. Quand vous serez amené à voter, vous aurez connaissance du dossier.
Il sera peut-être suggéré.
Aujourd'hui, on ne vote que sur la concertation, en fait.
Oui.
Monsieur Luneau ?
On vote sur les modalités de la consultation. Pardon.
La concertation.
La concertation, quelles seraient les autres options de concertation ? Puisqu'on...
Bah, ils sont très encadrés par la loi, il n'y a pas d'autres options.
Alors pourquoi on vote les modalités?
Parce que la loi nous le demande.
D'accord.
Étude sur l'environnement, étude sur les zones humides notamment. La faune, la flore, il y a tout en fait.
C'est une obligation légale, on ne peut pas s'y soustraire.
Si je comprends bien, donc, à cette réunion publique, on a le retour d'Urbaction.
Oui.
Ok. Et après, il y aura une autre par rapport aux zones humides et tout ça. C'est autre chose, c'est dissocié de cette réunion publique.
Non, non. Zone humide, il travaille justement avec Urbaction pour lui indiquer toutes les zones à suivre et puis la manière de faire, la manière de traiter les secteurs.
D'accord, mais du coup, ils n'auront pas le rapport pour le 11 mai, c'est ce que je veux dire.
Le rapport final, c'est celui qui vous sera proposé en conseil municipal. Et ensuite, il y aura une enquête publique et les Carnacois pourront venir consulter les résultats de cette étude, comme toute procédure d'urbanisme. Bon, je vous propose de passer au vote donc, sur cette concertation qui est donc organisée sur la commune et pour laquelle nous ferons donc une publicité importante du plan local d'urbanisme. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Voilà, le rapport est adopté. Je vous remercie. On passe ensuite au rapport d'activité d'ACTA, alors qui n'est pas l'objet d'un vote. J'imagine que vous avez pris connaissance de ce rapport d'activité. Je n'ai pas grand-chose à en dire. J'imagine que s'il y a des questions ou des interrogations sur ce rapport, je pourrais ou nous pourrons y répondre. Enfin, les grandes activités d'ACTA pour la commune cette année ont consisté évidemment aux travaux sur l'assainissement, aux travaux sur la station d'épuration de Kwerghelek, et puis dans quelques mois, les débuts des travaux de l'extension de la déchetterie, qui sont les projets majeurs que ACTA va mener sur le territoire de la commune dans les mois qui viennent. Pour ce qui concerne la station d'épuration, donc le calendrier est respecté et devrait donc cette station, les travaux devraient se terminer à la fin de cette année pour une entrée en fonction au cours de l'année 2024. Et puis pour la station, l'extension de la station la station de mince pour des déchetteries, pardon. Là aussi, les travaux devraient commencer cette année et se poursuivre jusqu'en l'année 2024. On a vraiment besoin d'étendre cette déchetterie parce qu'elle est vraiment un petit peu trop à l'étroit et elle sera réalisée sous le modèle de ceux qui sont allés à Auray ou à Quiberon, puisqu'il y en a une toute nouvelle à Quiberon. Ce sera à peu près sur le même modèle. Donc voilà pour le rapport d'activité d'ACTA. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport d'activité, Madame Le Golvan?
Moi, je me suis surtout attardée sur tout ce qui avait trait au logement. On avait évoqué en conseil municipal les fameux BRS, donc qui étaient compliqués, que ce n'était pas encore très au point. Enfin, c'était lourd et tout ce qu'on voulait. Sauf que là, je lis que la communauté de communes donc, a 80 logements donc, en projet. Donc ça veut dire que... Ça y est,
ça commence. ACTA veut créer une foncière justement pour le faire, mais c'est pas encore tout à fait opérationnel.
Ouais. Donc ce serait bien qu'on ait, je le demande à chaque fois, mais si ACTA est à plus de, plus au fait en fait sur le sujet des BRS, ce serait bien qu'ils viennent nous présenter, puisque il y a un service quand même logement, qui viennent nous présenter un peu comment se font les montages et puis comment ça se passe.
Parfait. Non, mais on peut le demander. En conseil municipal ou en commission urbanisme ?
Je pense que
tout. D'accord. Donc pas de vote sur ce rapport. Donc simplement, vous en prenez acte. Ensuite, il y a le rapport d'activité des unités d'insertion. Je pense que tout le monde connaît l'activité des chantiers d'insertion. C'est un des plus beaux projets d'ACTA pour réinsérer les gens dans le monde du travail. Je ne sais pas si vous avez parcouru ce rapport et l'ensemble des réalisations qui sont effectuées dans le cadre de ce service, mais c'est vraiment remarquable. Et comme vous avez, il ne vous aura pas échappé que Carnac bénéficie de l'activité de ces chantiers d'insertion, et notamment sur les alignements à Kerlescan et sur un certain nombre de sites mégalithiques. Et donc, je trouve que c'est une initiative qui non seulement est très utile, mais qui est maintenant reprise par d'autres intercommunalités, notamment GMVA qui va lancer un dispositif similaire, parce que c'est vraiment très, très utile, et ça permet... de réinsérer dans le monde du travail des gens qui en étaient sortis et qui étaient en difficulté. Et je dois dire que c'est assez efficace, d'après ce que les fonctionnaires d'ACTA nous disent. Beaucoup de gens qui passent par les chantiers d'insertion trouvent des jobs stables après passer par ces chantiers d'insertion. Donc c'est vraiment quelque chose de remarquable. Est-ce qu'il y a des questions sur ces chantiers d'insertion ? C'est évidemment ACTA qui les gère, mais je pense qu'on est tous... On y est tous favorables. Et donc là non plus, pas de vote. Il s'agit simplement de prendre en compte ce rapport d'activité. On passe au rapport numéro 7, Monsieur Richard, sur le rapport d'activité et les comptes annuels du tennis de Beaumer.
Oui, merci, Monsieur le maire. Là, on vous demande de prendre acte du rapport d'activité. Que dit ce rapport d'activité en substance? Il dit que le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 5%, plutôt porté par les recettes de la boutique. Cette année, en hausse de 45%, et qui viennent compenser les pertes des cours individuels qui ont été fortement impactée par les fortes chaleurs de cet été. Hein, donc les gens ont beaucoup annulé de cours individuels. Donc du coup, la boutique a compensé le manque à gagner sur les cours individuels. On remarque aussi que le padel grignote de la part de marché sur le tennis à Beaumère et que des questions viendront à se poser, notamment sur quelle surface on va donner pour permettre au padel peut-être de s'étendre dans la mesure où les cours en terre battue demandent de plus en plus d'arrosage. D'accord, que les restrictions en période estivale risquent de aussi augmenter. Donc on aura sans doute un problème environnemental à gérer avec l'eau. Donc il faudra se poser deux, trois questions de savoir si, en effet, il ne faudrait pas sacrifier un ou deux terrains de tennis en terre battue pour y mettre des paddles plus conformes à ce que, évidemment, la nature nous oppose comme résistance. Voilà. Sur le plan financier, on revient à une activité financière et un résultat financier qui est très proche de ce qu'on avait avant le Covid. C'est plutôt en rapport avec ce qui est sorti sur le bilan 2019. Et on voit bien que les bons résultats de 2020 et de 2021 étaient surtout portés par les aides Covid qui étaient en subvention d'exploitation. Voilà. Donc on ne fait pas fortune en gérant un club de tennis. Pour ceux qui avaient tendance à penser le contraire. Il est important de pouvoir continuer, nous, mairie, à supporter et à investir sur le tennis club de Carnac pour apporter en tout cas une activité importante pour les résidents secondaires qui viennent à Carnac. Merci. Oui, mais ils sont plus nombreux, les secondaires. C'est beau, merde. Les résidents jouent à la raquette.
Voilà. La dernière fois que j'ai joué, je me suis blessé. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport d'activité, Yann ?
Oui, j'en ai une. Dans les projets, il y a un truc que je n'ai pas compris. Construction d'un terrain de pétanque. Je ne vois pas ce que ça vient faire dans les tennis par rapport au fait qu'il y ait déjà un club de pétanque qui est juste à côté.
C'est une décision du TC Beaumère, qui est de mettre une activité... Il y a du ping-pong, voilà. C'est-à-dire que les gens qui attendent entre eux, qui veulent passer la journée au TC Beaumère parce que les enfants sont laissés par les familles une heure, deux heures ou trois heures, c'est pour leur proposer une activité complémentaire. Ça n'a strictement rien à voir avec la partie pétanque de l'autre côté. C'est pas pour faire venir des pétanqueurs. Voilà.
Ouais, je voulais juste vous reprendre, Monsieur Richard. Je n'ai jamais dit que Monsieur Cointe s'enrichissait évidemment en ayant la gérance de du tennis de Beaumère. Souvent, ce qui me fait intervenir, c'est pourquoi la commune en fait finance certains investissements qui devraient revenir en fait au gérant. Là, par exemple, dans le rapport d'activité, on voit tout de suite que on nous annonce, d'ailleurs, vous nous l'avez annoncé aussi, qu'il y aura des travaux à faire. On pourrait penser que c'est le gérant. En général, quand on est locataire, on entretient le bien en bon père de famille. Donc là, par exemple, la question qui se pose de transformer des terrains qui sont aujourd'hui en terre battue en paddle, c'est comme ça que vous les appelez, pour moi, il relève des finances de la société et non de la mairie, c'est ça. Mais m'opposer que j'ai dit que M. Coin s'enrichissait entre guillemets, je ne l'ai jamais dit. Par contre, je défends en effet les intérêts de tout ce qui est général. Et là, j'estimais que pour certains investissements que l'on finançait, ce n'était pas légitime, tout simplement.
C'est votre vision de comment doit fonctionner le club de Beaumère. Le souci, c'est que si vous prenez un loyer modéré et que vous ne faites pas l'entretien, vu les résultats financiers que sort le tennis, il ne peut pas les faire. Résultat des courses. J'ai retrouvé, c'est drôle ce que vous me dites, parce que j'ai retrouvé le rapport du comité départemental de tennis de 2010. Qui précise que, vu la mauvaise qualité
des terrains de terre battue et du mauvais entretien des vestiaires et de le côté insalubre des vestiaires, le comité départemental de tennis n'envisageait aucune pratique du tennis dans le cadre de tournois locaux, départementaux et régionaux. Depuis qu'on a mis notre nouveau système en place, qui est d'investir dans le tennis, de prendre un loyer plus cher, de porter le tennis club de Baumeur, nous allons avoir un Open de tennis international validé à la fois par la Fédération française de tennis et validé par la Fédération internationale de tennis. On a deux conceptions très différentes, en effet, Madame Le Gaulois, vous avez raison, de la façon de faire fonctionner un club. C'est une certitude. Mais je pense que nous sommes dans le vrai.
Ce débat, on l'a tous les ans, hein, et moi, je respecte la position de Mme Le Gaulois. C'est pas du tout celle de la nôtre. Hein. Je pense que cet outil, ça participe à l'attractivité de la commune. C'est une offre que la commune met à disposition, voilà, pas seulement des résidents secondaires, hein, mais de nos visiteurs, de beaucoup d'enfants. Et effectivement, si la commune n'investissait pas dans cette infrastructure n'existerait probablement plus, ou du moins on n'aurait pas de personnes suffisamment motivées et compétentes pour vouloir gérer ce type d'infrastructure. Donc on a fait un choix, effectivement, qui n'aurait pas été le vôtre, Madame Le Gaulois, mais enfin, on s'y tiendra, et sans surprise, vous imaginez bien qu'on ne bougera pas notre position sur ce sujet. Mais encore une fois, je respecte parfaitement votre position, mais qui n'est pas la nôtre.
Monsieur Richard, pardon.
Oui, Madame Le Gaulois.
Vous pouvez juste me rappeler le loyer annuel, s'il vous plaît.
Quand Monsieur Lejean n'est pas là, c'est sûr que les chiffres...
Ouais, je ne l'ai plus petit. Vraiment en tête, mais je pense qu'il est aux alentours de 8 000 à 9 000 euros par an, il me semble.
On vous donnera le bon chiffre. Enfin, on vérifiera et on vous donnera le chiffre, Madame Le Gaulois. OK, donc là non plus, pas de vote. Hein, c'est simplement prendre acte de la communication du rapport. En tout cas, moi, je souhaite remercier Monsieur Lecointre, qui fait un travail remarquable sur ce dossier et qui gère vraiment extrêmement bien cet outil, au point qu'effectivement on va avoir un tournoi national à Carnac cette année. International.
Pardonnez-moi, vous remerciez Monsieur Lecointre. Je crois qu'il n'a rien à voir avec le tennis club, et c'est bien
Monsieur Cointre.
Si je peux me permettre.
Alors, on passe au rapport suivant. Monsieur Durand, la cession de la parcelle BM 170 au Runel.
Oui, alors tout à fait, c'est la parcelle sur laquelle il y a eu une OAP au Runel. Et en 2020, donc, il avait été vendu pour construire 15 logements collectifs et 6 maisons individuelles. Et en fait, il s'est avéré que la construction sera toujours de 15 logements, mais 5 maisons individuelles. Donc voilà, il y a une baisse du prix de 84 à 80 000 euros.
Pourquoi on en supprime un ?
Alors, il a été
supprimé une, d'ailleurs.
Oui, il a été supprimé une maison parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un terrain et on isolait le terrain. Et on ne pouvait pas l'isoler le terrain. Et on a su après qu'il passait par la parcelle de la commune pour aller sur ce terrain. C'est un terrain qui est situé juste à côté du lotissement des Aubépines. Oui, côté du lotissement des Aubépines. Et il n'avait pas l'autorisation de sortir par le lotissement des Aubépines, il sortait par le terrain communal. Donc plus la route, tout ça, donc on a été obligé de supprimer malheureusement une maison.
Pas de questions ? Ah,
non, mais juste dans le côté financier des choses, ça ne va pas poser un problème à BSH pour les constructions, puisqu'il y a plutôt des logements qui sont dédiés à...
Ah ben ça n'est que des logements sociaux.
Oui, c'est que des logements sociaux. Hein. Il y a deux bâtiments. Deux bâtiments, un bâtiment de 8 et l'autre de 7 et 5 maisons. 5 maisons individuelles pour des LLA.
Non, ce qui a posé problème à BSH, c'est le rapport suivant, c'est-à-dire qu'on a découvert que le terrain était pollué et que donc là, ils nous ont dit bah ça passe plus, et donc là, la commune s'est engagée à verser une subvention pour supporter les coûts de dépollution de ce terrain, sachant que voilà, on a évidemment une mauvaise nouvelle, hein, on l'a découverte quand ils ont commencé à creuser dans le terrain, mais on a découvert qu'en fait cet endroit servait un peu de décharge au village depuis des années. Il y avait des pneus et beaucoup de choses qu'il faudra retraiter. Et donc la dépollution a failli remettre en cause un petit peu le projet. Et là, pour le coup, BSH nous a dit ça passe pas. Et comme, compte tenu de l'importance du logement et de la faiblesse du logement social à Carnac, on a décidé de, c'est ce qu'on vous propose dans la délibération suivante, pour que BSH puisse continuer ce programme, à leur verser une subvention exceptionnelle de 181 000 euros, puisque la dépollution a été estimée à 211 000 euros. On aurait pu faire un vase communicant au prix du terrain, mais on ne le fait pas parce qu'en fait, il y a des subventions qui sont liées à la première, au premier apport qu'on touche en fond, par acta et qui sont liées au prix du terrain. Madame Le Golvan ?
Concernant la densification, c'est vrai que vous nous avez habitués, en tout cas, à nous répondre à chaque fois qu'on parlait de la densité, de construction. À nous dire que vous preniez les densités minimum. Là, on voit que finalement, le minimum requis, c'est 57 logements par hectare sur le Runel. Et vous densifiez à hauteur de 74 logements, s'il y avait un hectare. Là, il n'y a que 2700 m². C'est vrai que déjà, je le rappelle, je le rabâche parce que je l'ai déjà dit, au Runel, on stigmatise déjà tout ce qui est social. Tous ceux qui vivent au Carnac, on sait ça. Et en plus, là, quand on voit sur 2700 m², en effet, il faut du logement. C'est pas ce que je ne me fais pas dire le contraire. Mais pourquoi à cet endroit-là densifier autant? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu réserver d'autres OAP pour le même sujet, finalement? C'est ça, ma question.
Il y a Bellane et Bellevue qui sont en cours, pour le coup. Mais c'est vrai que, on a choisi, je comprends votre remarque, on a choisi parce qu'on a... On a un cruel manque de logements sur la commune et qu'à certains endroits, effectivement, c'est un terrain communal aussi. Donc c'est aussi pour ça que ce projet se fait. Et donc on a préféré, compte tenu du manque de logements sociaux, aller peut-être un peu dans la fourchette haute. Mais je pense que ça aurait été à un autre endroit que Runel, on aurait fait la même chose. Madame Robineau.
Oui, il n'y a pas que de la location. Y a les 5 maisons, c'est de l'accession à social. Oui. Et puis, Runel, il n'y a pas que du locatif non plus. C'est quand même un lotissement qui est varié, où il y a de l'accession libre et de la location. Donc, les années 70, je pense qu'ils ont été un peu révolus. Il faut arrêter de dire que le social... On n'a pas vraiment beaucoup de logements type social qu'on connaissait dans les années 70. Quoi.
Je pense aussi que la qualité de construction a quand même beaucoup évolué. Aujourd'hui, ce que fait BFH, c'est vraiment de très très bonne qualité par rapport à ce qu'on a pu faire dans les années 70. C'est vrai que certaines maisons du Runel ont été d'ailleurs rénovées, étaient des vraies passoires thermiques. Et là, on est vraiment dans des qualités de construction qui sont vraiment excellentes.
Alors justement, le chantier, une fois que ça va être dépollué, là, vous pensez que ça va démarrer quand par rapport à ce qui est...
Là, ça devrait démarrer sous peu, sauf qu'ils ont comme dans tous les promoteurs, on a les mêmes problèmes, ils ont des marchés infructueux. Donc voilà, ils attendent...
Ils avaient fait l'appel d'offres déjà depuis fin d'année. Et ils ont eu effectivement, comme dit Sylvie, un retour infructueux. Donc ils ont relancé les consultations. Normalement, ils devraient démarrer maintenant.
Donc je vous propose de passer au vote pour ces deux rapports. Le premier sur la cession de la parcelle. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et pour la subvention exceptionnelle, donc pour la dépollution, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Une subvention, cette fois-ci, non pas à Bretagne Sud Habitat, mais à Braise Ladies Tour. Madame Marie-Pierre Gasset.
Alors, effectivement, je vais vous demander...
De voter la subvention de 2000 euros pour Braise Ladies Tour, qui est une course cycliste féminine internationale, qui va avoir lieu le samedi 13 mai, départ de Plouarnel et passage donc dans la commune de Carnac de 13h à 13h40 avec un départ qui se fera au Pau.
Est-ce qu'il y a des questions? Non, tu ne peux pas participer, Yann. Tu n'es pas...
Non, c'est féminin.
C'est féminin.
Justement, moi, je suis très ladies et je trouve que le montant...
Très ladies ou très vélo ?
Donc, je trouve que le montant est absolument... Alors, d'une part, je trouve étonnant qu'on nous présente ça que maintenant, enfin, ou que eux aient présenté un dossier que maintenant, alors que c'est une course qui doit être prévue depuis X mois, voire plus... ça, c'est un détail. Et la deuxième chose, c'est que je trouve que le montant est énorme par rapport à cette, certaines subventions qu'on octroie à des associations carnacquoises qui vont apporter beaucoup plus que 40 minutes de passage ou autre. D'ailleurs, puisqu'on y va, qu'est-ce qui justifie un tel montant ? Enfin, je trouve ça énorme par rapport au temps qu'ils vont passer sur la commune. Par rapport à ce que ça va nous apporter, c'est-à-dire rien.
Ah si, 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 il y a quand même du monde hein, sur les départs des courses. Hein.
Tour,
si,
de
si. Des
ouais. Tour de Bretagne des filles.
C'est le Tour de Bretagne des filles, si, si, il y a une énorme, caravane, il y a du monde, hein, tu verras. C'est pas la petite course. Hein. Ok. Bon, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Contre, carrément. Des abstentions ? Le rapport est adopté. Je vous remercie. Alors, deux conventions d'objectifs et de financement de prestations de services pour l'accueil de loisirs. L'une périscolaire avec la CAF, l'autre extrascolaire. Bon, c'est un marronnier. Hein, on vote ça chaque année. Et donc, j'imagine que vous en avez pris connaissance. Ouais, c'est très encadré, c'est la loi. J'imagine qu'il n'y a pas d'abstention ni de vote contre pour ces deux conventions d'objectifs. Je vous remercie. Et une dernière convention, cette fois-ci, elle porte sur la cybersécurité, puisque c'est une offre que nous propose Mégalis Bretagne. Vous savez que beaucoup d'entreprises, mais également de collectivités territoriales, sont victimes de cyberattaques, hein, que ce soit du phishing, c'est-à-dire des tentatives de fraude, soit à la carte bancaire, soit à des services bancaires, soit des pillages de données, ce qui arrive assez souvent. Et donc Bretagne Mégalis propose eh bien, non seulement de faire un pré-audit des systèmes d'information des collectivités, et également de former les personnels et les sensibiliser à la cybersécurité. Et donc bah, nous avons choisi effectivement d'accepter cette proposition de Mégalis. Et donc je vous propose d'approuver cette convention donc, qui est en annexe du document de préparation de ce conseil municipal et de m'autoriser donc, à signer cette présente convention. J'imagine que là aussi, il n'y a pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Merci à tous. Pas de questions orales, pas de questions diverses. Bon week-end à tous. Et le prochain conseil municipal, on ne sait pas, donc c'est dans longtemps. 9 juin. Ah oui, c'est vrai. Pas. 9 juin. Préparez vos agendas. Bon week-end à tous, même si on est jeudi. Et puis, bonne journée.